Voilà. Du coup, nous pouvons reprendre.
Tout d'abord, je remercie beaucoup Marc et Clélia parce que c'était passionnant ce qui a été dit ce matin. Et je passe après. J'espère que je pourrai amener des lumières sur ce qui a déjà été dit parce que ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, je suis Hélène Guay, je suis conteuse depuis plusieurs générations. Donc, moi, je suis issue de tradition orale. Alors, je le dis parce que des fois, il y a des incompréhensions dans l'approche que l'on a avec le conte. Donc, par rapport au conte et au conteur et au metteur en scène et au comédien, je comprends tout à fait ce que dit Marc, parce que c'est intéressant de rentrer dans l'intimité, du public et de par cette parole, de réchauffer, tout ce public et de le mettre en lien avec, quelque chose d'intime et qui n'est pas forcément, très représentatif et en même temps de l'incarner complètement. Et dans la tradition orale, on est dans ses sensations, ses goûts, tous les sens sont en éveil, donc c'est une incarnation qui se fait un peu de bouche en oreille, on va dire. Alors ça, c'est un gros résumé. Voilà, c'était pour resituer ce qui a été dit et que je trouve passionnant. Et donc, peu importe comment ce soit fait, l'essentiel, c'est qu'on arrive à partager cette magie, parce qu'il s'agit de magie pour moi. Et Psyché et Eros, j'ai eu l'occasion de le conter, mais c'était tellement profond et complexe que j'ai eu du mal à me l'approprier pleinement, puisque je sentais que ça allait entrer en moi comme quelque chose qui m'échappait beaucoup. Donc en fait, c'est la vision que je vais donner, ce n'est pas une vision d'anthropologue, ni de psychologue, ni de quoi que ce soit, c'est une vision interne, hein, personnelle, mais pas que personnelle, qui va ouvrir des horizons, je l'espère. Donc en fait, par rapport à ce qui a été dit entre Psyché et Eros, j'aime bien remonter aux origines. Donc effectivement, Vénus est née de l'écume d'Ouranos, parce que c'est quand même un drame au départ, hein. C'est-à-dire qu'on a Gaïa, qui est enfantée en permanence par Ouranos, et il étouffe complètement. Déjà, on part sur une situation comme ça, et elle est obligée de faire appel à ses enfants qui n'arrivent pas à naître, Gaïa, parce que Ouranos est envahissant, et elle demande qui d'entre vous veut bien me débarrasser de lui. Donc, elle va donner à Cronos une arme, une lame qui est tranchante, en lui disant, bah, tu coupes le sexe de ton père parce que là, ça suffit, il nous étouffe tous et vous ne pouvez pas naître. Donc, à partir de là, Cronos va s'en charger. Ouranos a tellement mal qu'enfin, il se sépare de Gaïa et tous ses enfants peuvent naître. Mais du sexe d'Ouranos, là, ça va tomber, son sang va tomber dans l'écume de la mer, on dit que c'est Eros aussi, et va naître Vénus. Et Vénus, qui est la déesse de la beauté, enfin Aphrodite, hein, entre les Grecs et les Romains, des fois je fais des allers-retours, mais voilà. Donc en fait, ce qui est étonnant, c'est que cette créature qui s'appelle Aphrodite, cette déesse, ne fait pas partie des titanes, ce n'est pas une titanide, elle est un peu à part. Et il y a une complexité entre Eros et Cupidon, ils ont le même nom, mais ils n'ont pas du tout la même nature. On va le retrouver dans plusieurs écrits. Ou en fait, Eros, celui des origines, serait plutôt proche d'Agapé, c'est-à-dire de l'amour universel et immense. Et le Cupidon, l'Eros que Aphrodite ou Vénus a eu, alors certains disent avec Hermès, il y a plusieurs versions, serait plus de l'ordre de quelque chose de sexué, de la beauté, du côté charnel, etc. Donc déjà là, on rentre dans des nuances de l'amour. Nous, dans notre langue française, on n'a pas tellement de nuances, je pense. Et il y en a d'autres langues où c'est beaucoup plus développé. Nous, on aime le chocolat, on aime son voisin, on aime son chien, son chat, on aime le bleu, le vert, le rouge. Et on aime, voilà, toujours c'est aimé, mais peut-être que les Grecs avaient mis plus de nuances. Et voilà, donc déjà, on a cette notion de cette créature qui a quelque chose d'étonnant, puisqu'elle ne fait pas partie vraiment de ce monde, tout en faisant partie du monde, de ce monde des dieux, des titanides, etc. Et son fils, Cupidon, donc c'est lui qui va avec ses flèches, selon son bon vouloir, tirer ici et là et créer la zizanie notamment auprès de Zeus, qui va se retrouver amoureux de tel et tel mortel, avoir des gros problèmes avec Junon, etc. Donc, déjà, on part sur ce concept-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que psyché, qui est donc mortelle, qui est issue... Donc, c'est une fille de roi. Pourquoi ? Parce que dans les rois, pour moi, dans le... C'est pas que pour moi, d'ailleurs, c'est ce que, comme ça que je l'aborde. La royauté, ça veut dire qu'il y a un potentiel de se retrouver dans une position de lumière, non pas supérieure par rapport au reste du peuple, mais dans nos schémas internes, en fait, elle est proche d'états de royauté. Et c'est par son innocence qu'elle va séduire aussi, puisqu'elle a une grande innocence, une grande beauté intérieure. C'est l'âme. Donc l'âme, on ne sait pas cette âme où elle va, qu'est-ce qu'elle vient. Donc elle est entre les mondes. L'âme, elle est entre les mondes. Est-ce qu'elle voyage en s'incarnant sur Terre ? Est-ce qu'elle fait partie du monde de l'au-delà ? Quand on remonte à Mémosine, on se rend compte que Mémosine, c'est celle qui va gouverner aussi la mémoire, la méditation. C'est elle qui enfante les muses, mais c'est aussi elle qui va décider quand les mortels vont mourir, s'ils vont boire à la fontaine de l'été ou à la fontaine de l'oubli. Donc déjà, on rentre dans ces notions des mondes entre les mondes qui se complexifient. Donc nous, pauvres mortels, on a peu d'informations. Peut-être que les mythes sont là pour nous donner quelques clés. Et par rapport à Psyché, on dit... Alors j'ai le texte là de Métamorphose, hein, qu'elle va à ses noces comme elle irait à des obsèques. C'est-à-dire qu'on va la sacrifier. Déjà, il y a la grande notion du sacrifice. Et les notions qui sont développées dans ce conte, ce sont des notions... Alors, c'est vrai qu'en résumant, c'est la vie et la mort, mais j'ai l'impression que ce qui m'a le plus touchée, ce sont des notions où il s'agit de l'amour. Parce que la vie sans amour, il y a des chansons qui le chantent, mais je crois que ce n'est pas pour rien. Hein. Sans amour, on n'est rien du tout. L'amour, c'est l'essence de la vie. Et ce conte va nous donner toutes les nuances de l'amour. Donc, ça va nous parler d'amour, mais de souffrance aussi. Parce que ce pauvre Eros, il veut lui tirer une flèche, non pas sur elle, mais sur cette espèce de personnage hideux pour qu'il tombe amoureux d'un personnage hideux. Et en fait, c'est lui qui va se blesser malencontreusement et va tomber éperdument amoureux de Psyché. Donc en fait, déjà là, on rentre dans quelque chose qui va nous amener sur une piste que, comme disait Marc, hein, le mythe, on le vit. Il est en nous, quoi que l'on fasse, et les sociétés le vivent. Donc j'ai voulu sortir ce mythe un peu de son côté profond de la psyché, de tout ce qui est obscur, pour essayer de voir qu'est-ce que ça peut donner dans une société. Et de mon expérience, ma petite expérience de fourmi sur cette terre, en allant faire des collectes en Ador, par rapport à mon expérience personnelle en tant que femme méditerranéenne, parce qu'il faut dire aussi que, comment il s'appelle, Apoulé, en fait, il était dans une région de l'Algérie, hein, donc au IIe siècle. Donc, il est nourri de tout ce légendaire méditerranéen, parce qu'avant les Grecs, il y avait toute une culture qui venait de... Hein, il y a beaucoup eu de brassage et d'apport. Et donc, qu'est-ce que ça va donner sur le terrain ? Voilà, c'est la question que je me suis posée. Donc, la relation belle-mère, hein, mère-fils, belle-fille, la question de l'amour, donc c'est le noyau de la famille. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on est vraiment dans ce concept-là, plus que dans La Belle et la Bête, c'est par rapport au père, l'inceste du père, là, ça serait plutôt l'inceste de la mère. Ou, alors, je résume, hein, je ne vais pas rentrer dans un discours trop scientifique, mais... Où, en fin de compte, Vénus, elle ne supporte pas qu'une autre femme soit aussi belle qu'elle, alors qu'elle est déesse, quand même, c'est la déesse de la beauté et de l'amour. Donc, cette jalousie semble déplacée par rapport à son statut. Mais c'est quelque chose de plus fort, puisque justement, c'est cette beauté innocente qu'elle n'a peut-être plus ou qu'elle n'a pas développée en étant immortelle, alors que cette vulnérabilité de la mortelle va amener cette innocence qu'a Psyché. Et Eros, qui va être son fils, qui lui obéit comme petit garçon, parce qu'il a une tête de petit garçon. D'ailleurs, on trouve dans Vitourlucius, le dieu de la rivière, qui prend sa source, où c'est aussi un adolescent. Hein, donc, ça revient souvent, ces notions d'adolescents qui vont vraiment séduire des femmes parce qu'ils ont cette innocence, cette candeur et cette puissance masculine en même temps. Tout est là. Et donc, Vénus va garder son fils à son service. Il obéit comme un petit soldat. Donc là, tu fais ci, là, tu fais ça. Et lui, en tant que bon petit-fils maintenu sous l'aile de sa mère, va dire, bah oui, on va lui faire tomber amoureuse de Psyché, de qui tu veux. Et il va être inconsciemment, il va se blesser. Donc, c'est lui qui va tomber amoureux d'elle. Déjà, on part sur une blessure. Donc, l'amour est malheureusement, dans ce récit, lié à la souffrance. Il y a la souffrance et il y a la blessure. Et on le retrouve quand il va se faire brûler par la lampe. C'est de l'huile bouillante parce qu'elle a vu qui il était. Et ça le met dans une souffrance terrible. Un dieu qui souffre comme ça, il n'y a qu'une mortelle qui peut le blesser. Parce qu'elle est, c'est sa fragilité, c'est sa vulnérabilité qui va mener plus loin que ces dieux qui sont invincibles. Et il va retourner chez sa mère pour se faire soigner. Et là, il y a Vénus qui va réagir de façon extrêmement violente en lui disant qu'il n'est pas digne d'être son fils, qu'elle va adopter n'importe qui à sa place, enfin, elle va lui faire un chantage terrible, et elle va dire qu'il l'épuise parce qu'elle doit le soigner, et c'est pour ça qu'elle va justifier ensuite à Psyché d'aller chercher le baume de beauté chez Perséphone, parce que ça la fait vieillir, elle qui est une déesse immortelle, de s'occuper d'un fils qui a été brûlé par l'amour. Donc, on voit à quel point sa jalousie, sa possessivité, la mère qui dit « c'est ma chose, c'est pas mon fils, c'est ma chose ». Et donc, par cette candeur, Psyché va éveiller, non pas avec une flèche, mais avec la douceur de son âme, la conscience de Cupidon qui est très sexué, qui est tout le temps dans le charnel, etc. Et il va s'éveiller peut-être à l'éros supérieur. Par l'intermédiaire de Psyché. Donc, il va se retrouver enfermé comme un petit garçon. Et quand Vénus va récupérer Psyché, elle va être abominable, évidemment, comme disait Clélia. Il y a un passage quand même que j'aimerais lire parce que quand elle retrouve, avant de retrouver Psyché, elle va croiser Junon et Cérès, donc Déméter. Et la femme de Zeus, quand même, ce ne sont pas des déesses anodines, hein, c'est l'abondance, et c'est celle qui gouverne. Et elles vont lui dire, je cherche cette Psyché, parce que Psyché est en errance, si vous la trouvez, condamnez-la. Et là, il y a les deux déesses, bien instruites de l'aventure, essayent d'apaiser la grande colère de Vénus. Mais madame, qu'a donc fait votre fils pour motiver cet acharnement contre lui ? Et cette hostilité si violente contre celle qu'il aime ? Où est le crime, s'il vous plaît, de faire les yeux doux à une jolie fille ? Vous n'ignorez pas qu'il est garçon, sans doute, hein ? Les garçons, oui. Et de plus, grand garçon, auriez-vous oublié la date de sa naissance ? Ou parce qu'il porte si gentiment ses années, vous vous obstinez à le voir toujours enfant ? Vous, sa mère, vous, femme de sens, vous auriez d'un œil curieux épillé ses amusements ? Lui faire un crime de ses petites fraudaines ? Contrecarrer ses amourettes et condamner enfin dans ce beau jouvenceau vos propres gentilles pratiques et les doux passe-temps que vous ne vous refusiez pas ? Donc vous voyez déjà, les déesses essayent de la raisonner. Quelle mère nous connaissons autour de nous ? Et peut-être nous-mêmes, une part cachée lointaine qui ne nous concerne pas, c'est toujours chez la voisine, mais n'a pas eu cette tendance. Et puis, on en voit qui l'ont développée jusqu'au bout. Hein. Donc, déjà, là, on est dans le crime de base, je dirais, que ces fils qui n'ont plus la liberté de pouvoir déployer leurs ailes. Ce n'est pas pour rien qu'il a des ailes éros. Hein. Mais elle lui coupe ses ailes, elle lui coupe tout. Donc, je n'ai pas dit jusqu'où elle va lui couper, mais ça pourrait arriver aussi. Donc, en fait, ce qui va se passer là, c'est que Vénus, toute déesse qu'elle soit, va rentrer dans ce mythe méditerranéen au départ, hein, mais qui s'étend beaucoup plus largement que ça. Et puis, moi, j'ai pu le constater sur le terrain. je pense que vous aussi, bah, je parle de mon expérience, c'est-à-dire que bah, quand je suis allée faire cette récolte chez les Tamazight, j'ai beaucoup voyagé dans ces zones du Maghreb, etc., et même de Méditerranée, où les mères sont toutes puissantes, pour certaines. Les hommes sont dans la violence, comme dans les idiots grecs. Ce sont des guerriers, ils sont combattants, c'est d'une violence inouïe, la mythologie. Et les femmes, dans cette mythologie, pour revenir au genre, vont attaquer par rapport à la psyché, par des choses très profondes qui vont amener aux enfers. C'est-à-dire que la bru, entre guillemets, va se retrouver sous la mainmise de la belle-mère et soit se sacrifie complètement. Le fils va répondre à la demande de sa mère et est complètement prisonnier. Et on est dans un cercle terrible où après les réactions pourront être, je ne dis pas que c'est ça, je ne dis pas que ce que je dis est vrai, mais c'est des observations, vous allez me dire si vous les avez pu les constater, où il y a une haine de la femme et de la mère qui va se reporter après sur des actions qu'on connaît malheureusement. Donc, il y a cet aspect-là sociétal, mais il y a aussi tout l'aspect de ce sacrifice. Donc, on voit que cet amour, il est fait de souffrance, de blessure, de sacrifice, de descente aux enfers. Et on pourrait se dire, c'est peut-être aussi une autre forme d'amour, comme on le retrouve, puisque les Indiens ont beaucoup apporté dans leur mythologie les continents méditerranéens, de retrouver le mythe de Mémosine, hein, où libéré de l'ego, il n'a plus besoin de se réincarner. Donc cet ego, est-ce qu'elle va aux obsèques au lieu de se marier au début, ou est-ce qu'elle va accepter de laisser tomber le manteau de son ego pour atteindre l'éveil, entre guillemets, qui va être le monde des dieux, et passer de cet amour éros à cet éros, plus d'ordre de l'agapé, hein, universel. Et elle va faire tout ce cheminement, tout ce parcours initiatique où effectivement, moi je me suis posé la même question, c'est la seule qui arrive à revenir des enfers, de l'enfer du Tartare. Donc en fait là, il y a un très beau passage, toujours on revient à cette sensualité, où on retrouve les nombres symboliques. Excusez-moi, j'aimerais le lire parce que c'est quand même incroyable cette histoire. Mercure, parce qu'après, il faut dire que Vénus, quand elle voit qu'elle ne trouvera pas Psyché, puisque Psyché essaye de s'enfuir, mais elle va demander de l'aide à Junon et à Cérès qui lui disent tu es bien gentille, on te trouve très belle, on aimerait bien t'aider, tu vas dans notre temple pour nous vénérer, mais nous on ne peut pas parce que Vénus, c'est notre amie et on n'a pas à la trahir. Donc va dans ton chemin pour qu'on n'ait pas à se mêler de cette histoire. Donc elle va errer et elle va être aidée par Pan, par les fourmis, on n'y est pas encore aux fourmis, hein, mais par Pan, elle veut se noyer dans la rivière ne veut pas qu'elle se noie. Et alors là, je ne sais pas si c'est Eros, moi je ne l'avais pas entendu comme ça. J'avais compris que c'est déjà tout ce monde invisible que l'on ne voit pas, que l'on n'entend pas en tant qu'être humain non sensible, mais qui est partout. Et déjà après, elle sort avec quand même des ailes de papillon qui pourraient être des ailes de fée. Donc elle rentre dans ce monde de la nature invisible. Et c'est ce monde-là qui va déjà l'aider, qui est en dehors du monde des dieux, mais qui est quand même bien présent. Et donc, elle est protégée par ces êtres invisibles. Déjà, on est dans le monde invisible. Mais ça ne suffit pas, puisque Vénus va dire, elle va être tellement furieuse qu'elle va aller voir Zeus, et elle va faire tout un esclandre, et elle va demander à ce que Hermès s'occupe de chercher Psyché. Et Hermès, on sait très bien que c'est le dieu messager, et quand il a envoyé son message, personne ne peut l'ignorer. Donc, Psyché va se rendre. Hein. Psyché va se rendre, et là, Mercure, pour pouvoir, il n'y avait pas Internet à l'époque, il n'y avait pas la télévision, mais il avait des moyens de médiation très efficaces, et je vous donne lesquels. Mercure, empressé de s'en quitter de la commission, se met à parcourir la Terre, proclamant partout ce qui suit. On fait savoir qu'une fille de roi, du nom de Psyché, esclave de Vénus, a pris la fuite. Quiconque pourra la livrer ou indiquer sa retraite recevra pour sa peine 7 baisers de la bouche même de Vénus. Plus un huitième emmêlé de ce que ses lèvres ont de plus doux, s'adresser pour la réponse au crieur Mercure. Derrière les pyramides murciciennes. Vous voyez que personne ne peut résister à ça. Quand même, il est allé fort là. Donc, il y a les 7 baisers, il y a le baiser mielleux, le 8e. Donc, on est dans quelque chose là déjà où on rentre par cette sensualité, elle est partout la sensualité de Vénus. Et en même temps, c'est l'incarnation. C'est l'incarnation de la déité dans le corps de l'être humain. Donc, c'est là où il y a tout ce mélange de l'amour. L'amour universel qui passe par le corps, qui passe par la sensualité et qui en même temps peut amener vers cette présence ultime. Voilà, c'est tous ces croisements confus qui se rejoignent. Et donc là, la pauvre psyché, elle est obligée de se rendre. Voilà. Et quand elle se rend, comme disait Cléa, Vénus, en la saisissant par les cheveux, entraîne la pauvrette qui n'a aucune résistance. Voilà, on peut se dire, elle est énervante, hein. On ne pourrait pas un peu combattre, hein. Eh bien non, c'est sa nature. C'est comme dans La jeune fille aux mains coupées, à un moment donné, elle abandonne. Et pas elle abandonne ce qu'elle a à faire, elle est dans l'abandon. Il y a quelque chose de très pur chez elle que je trouve vraiment touchant, qui sort de cette volonté et qu'on rejoint la volupté. Et à la fin, elle met au monde, vous avez compris, la volupté. Donc, on retrouve tout ça. De Eros qui a changé quand même, elle a réussi, elle mortelle, à transformer ce dieu Eros. Et ce qui est fabuleux, c'est que, bon, je vous dis un peu des détails quand même, parce qu'à chaque fois, elle rit Vénus, elle lui met des coups, elle est abominable, et puis elle pousse un grand éclat de rire, de ce rire que produit souvent l'excès de la colère. Donc, on voit vraiment. Après, elle lui amène l'inquiétude et la tristesse pour l'aider un peu plus. Hein. Donc, vraiment, elle n'y va pas de même morte. Et là, elle va lui infliger tout ce que l'on sait, les épreuves où il y a toutes sortes de céréales. Et elle met sa robe en pièces hein, aussi. Elle lui a déjà mis sa robe en pièces. Elle lui a arraché les cheveux. Elle lui a meurtri la tête. Et elle lui fait porter du froment, de l'orge, du millet, de la graine de pavot, des pois, des lentilles et des fèves. Et elle lui dit, maintenant, tu ranges tout ça. Et la pauvre psyché ne songe même pas à mettre la main à ce chaos inextricable. Là, de nouveau, on se dit, mais alors, bouge-toi un peu. Mais pas du tout. Elle est là. Elle se dit, de toute façon, j'y arriverai pas, quoi. Et c'est la petite fourmi qui va se dire, bon, on va pas la laisser comme ça, parce qu'elle est touchée par cette vulnérabilité. Alors, c'est mon point de vue, hein. Et elle va voir ses sœurs, la petite fourmi, et elle dit « Soyez compatissante, fille alerte de la terre, vite au travail, une femme aimable, l'épouse de l'amour, a besoin de vos bons offices. » Donc déjà, tout ce monde qui fait partie de ce monde invisible de la nature comprend bien ces choses-là, alors que les êtres humains et les dieux ne le comprennent pas. Et je trouve que c'est là où moi, je suis le plus touchée dans ce message que nous donne ce texte. Et on va retrouver des contes que vous connaissez, hein. La Baba Yaga. La Baba Yaga, elle va donner le même type d'épreuves à Vasilisa. Et c'est l'initiatrice. Donc c'est là où c'est complexe. C'est qu'en même temps, c'est l'initiatrice et en même temps, c'est le bourreau. Elle est enceinte, psyché. Elle va lui donner des coups dans le ventre. Donc ça veut dire qu'elle ne veut pas de sa progéniture. Ça veut dire que c'est la pire des marâtres et des grands marâtres. Parce qu'elle est, on dit les marâtres, mais les grands marâtres, ça existe aussi. Hein, la grand-mère qui ne fait pas son job. Hein. Et à travers toute cette méchanceté, pire du pire, puisqu'elle a des pouvoirs magiques, on ne peut pas imaginer pire que ça, eh bien, ça va être la grande initiation de Psyché qui va suivre ce que le destin va lui donner. Et qui va aller à chaque fois chercher les brebis de la toison d'or, aller aider par Pan. Pan, c'est quand même celui qui a été, les oreilles d'âne. Hein. Pan, c'est celui qui a séduit Midas. Pan, c'est celui qui qui est le dieu de la nature et des sens, et c'est lui qui va l'aider. On retrouve encore cet esprit de la nature. C'est comme si entre ce monde des dieux et des êtres humains, il y avait un tiers monde qui est fait de tous ces esprits de la nature, qui n'obéissent aux règles ni des uns ni des autres. Et ils vont aider Psyché. Et Psyché, à la fin, aura des ailes de papillon, des ailes de fée, parce qu'elle aura intégré les trois mondes, la Trinité. Donc, on est dans quelque chose qui va nous amener à la prise de conscience d'une autre réalité qui est au-delà du monde des dieux et du monde des mortels. Donc, ils sont entre deux. Ils sont bien là, hein. C'est le monde invisible. Après, quand elle va se retrouver dans... avant, elle s'est retrouvée dans le palais d'Eros, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est que des voix qui vont lui parler. Il y a cette musique qui vient aussi. Une musique où on ne voit pas les musiciens. Et quand elle va pour le tuer d'un côté et l'éclairer de l'autre, à un moment donné, elle est éblouie par sa beauté. On dit que quand, si on voyait le visage de Dieu, nos yeux seraient brûlés tellement c'est fort. Et elle est presque obnubilée par ça. Et elle va caresser son arc, elle va caresser ses flèches. Et en caressant ses flèches, elle se pique. Et bim, ça y est, elle aussi, elle va tomber amoureuse définitivement d'Eros. C'est peut-être pour ça qu'elle va avoir ce sens du sacrifice et aller jusqu'au-delà de la mort. Donc, on voit que tous les deux, ils se sont pris au piège malgré leur désir de façade. Il y a un désir plus profond qui font qu'ils vont être reliés profondément. Et ils sont prisonniers autant l'un que l'autre. Eros, de la voracité de sa mère, et elle, de l'abandon de tous, sauf des êtres de la nature. Et ça fait que ce sont deux êtres errants, enfermés finalement, qui cherchent la liberté. Et quand elle va aller donc rechercher le toison d'or, on dit que ce sont des brebis cannibales hein, qui vont manger les êtres humains, eh bien elle a un conseil. Hop, le buisson lui dit, bah, tu ramasses toute la laine qui est restée sur les buissons. Et elle va aller chercher le Styx aussi. Eh bien, c'est l'aigle quand même de Zeus qui va tromper le fleuve en lui disant que c'est Aphrodite qui le réclame. Donc, la source va lui donner. Et ensuite, quand elle va aller voir Perséphone, il va falloir qu'avec sa bouche, elle paye Charon hein, pour qu'il la laisse passer. Parce que même dans le royaume des morts, eh bien, l'avidité existe, hein, et l'avarice aussi. Et elle va endormir le chien avec deux galettes de froment qu'elle aura préparées. Et puis elle va aller voir Perséphone, elle va recevoir ce petit coffret bien fermé, et on va lui dire, c'est là où il y a cette tour, c'est incroyable cette tour, qui va lui donner, en fait c'est l'oracle, hein. Et alors moi qui fais beaucoup de tarot et symbolisme des couleurs, des nombres, eh bien on retrouve la tour. La tour qui est l'oracle qui sait. Donc, il y a énormément de symboles qu'on va retrouver après dans les cartes d'oracle, etc. Hein, l'eau de la source de Styx. Donc, en fait, ils sont tous touchés par l'innocence. Et je pense que la jeune fille aux mains coupées, c'est un conte qui est vraiment issu de ça. De cette version, on retrouve pas mal de choses de ce côté-là. Quand elle va chez Prospérine aussi. Ah oui, alors après, elle arrive à remonter. Donc, vous voyez, il y a tout un méandre où elle va descendre dans les enfers. Il faut qu'elle repasse à l'envers, qu'elle arrive à lutter contre ce chien féroce qui a trois têtes. Et on le retrouve aussi après dans Jean de l'Ours, quand il descend au fond de la grotte et qu'il doit couper ces monstres. Ce monstre à trois têtes, à sept têtes, voilà, on retrouve tous ces motifs à chaque fois. Et là, quand elle remonte, elle ouvre effectivement le flacon, enfin, c'est pas un flacon, c'est un petit coffret, parce qu'elle se dit ben, je veux être belle pour reséduire Cupidon parce que je l'ai trahi, etc. Et là, elle s'endort, on ne sait pas si elle est morte ou pas. Et lui, il a guéri enfin, il a mis le temps, hein. Il a guéri enfin de sa blessure où il a été brûlé chez sa mère. Et là, il va se réveiller, il va sortir une flèche et va lui piquer la flèche pour qu'elle elle se réveille et qu'il puisse enfin aller voir. Alors là, on dit qu'il va transpercer le ciel avec une de ses flèches pour rejoindre l'Olympe et il va aller voir Zeus. Et Zeus le gourmande, parce que quand même, c'est à cause de lui qu'il a eu tous ses déboires avec Junon. Et il y a tout un passage où Zeus lui explique qu'il en a vraiment... Jupiter intervient à la faveur de Psyché. « Mon fils, vous n'avez guère respecté en moi la suprématie déférée par le consentement des dieux. De moi, le régulateur des éléments, le moteur des révolutions célestes, vous avez fait le point de mire ordinaire de vos flèches. Vous m'avez compromis dans je ne sais combien d'intrigues amoureuses avec des mortels. En dépit des lois, notamment de la loi de Julia et de toute morale publique, vous avez chargé ma conscience aussi bien que ma réputation d'assez scandaleux adultères. Hein. Donc, il a été transformé en flamme, en serpent, en oiseau, en bête des bois, en bête d'étable. Il s'est métamorphosé en toute chose d'ignoble et vous m'avez ravalé la majesté de mes traits. Vous imaginez le pouvoir qu'il a, Eros, sur ce pauvre Zeus. Et on se dit, ah, Zeus, il va se venger, il va renoncer à lui de rendre service, mais il lui dit « Je veux être débonnaire et me rappeler seulement que vous avez grandi entre mes bras. J'accède à votre requête, mais arrangez-vous pour qu'elle ne se renouvelle pas. D'autre part, en revanche, s'il se montre là-bas quelques minois hors de ligne, souvenez-vous que vous me devez une compensation. » Donc, en fait, il le rend responsable, mais ça l'arrange bien. Donc, vous voyez la complexité de Zeus qui agit en loi et en même temps qui est complètement transgressif. Donc, en un là, il va lui donner la possibilité d'épouser Psyché parce que Vénus reproche à Psyché de devenir n'être qu'une mortelle et qu'elle n'est pas digne de sa descendance. Et là, Zeus, en faisant ce geste, va dire à Vénus, eh bien, maintenant, elle fait partie des déesses et vous n'avez plus à avoir honte d'elle. Et là, Vénus, tout à coup, va accepter la situation. Et ils vont s'aimer jusqu'à la fin des temps, dit-on. Alors, est-ce qu'elle est morte ou pas? Donc, quand arrive Volupté, elle va aider aussi. Alors, ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que dans nos quotidiens, dans notre monde intérieur, dans nos sociétés, c'est comme si le trait de ce conte mythologique avait été grossi et où on retrouve souvent tous ces enjeux qui ne sont pas visibles mais qui font partie de tout ce qui va se jouer, se sous-tendre dans les intrigues. D'ailleurs, il y a beaucoup de romans qui ont été construits sur ce type-là, beaucoup de drames familiaux qui sont construits sur ce type-là, beaucoup de choses qui ressortent des mêmes... Comment ? Dans les familles, sans arrêt. Donc, en fait, quand on dit que le mythe, tout le monde y croit, même inconsciemment, ben c'est plus qu'inconsciemment. C'est comme si il se matérialisait, malheureusement, hein, dans nos vies et il nous chagrine. Donc, en fait, c'est un mythe qui finit bien, entre guillemets, et en même temps qui est un drame, puisque ce qui nous dit aussi, c'est que l'amour est souffrance, blessure, abandon, sacrifice, qu'on frôle la mort, etc. Et que tout ça, c'est le parcours de l'être humain pour pouvoir en ressortir grandi. Et que toute cette dramaturgie familiale, soit on s'impose en tant que victime, soit elle va nous aider à grandir vers quelque chose de plus élevé. Mais c'est tellement complexe qu'on pourrait y passer une vie effectivement dessus. Quoi. Voilà. Donc, l'essentiel... que je voulais vous partager là, à moins que j'ai oublié des choses. Ah oui, il y a aussi la jalousie des sœurs qui, elles, sont de même famille et qui n'ont pas cette innocence. Donc, on va le retrouver dans Cendrillon, on va le retrouver sans arrêt, ses sœurs qui sont jalouses et qui sont en fait des aspects de nous-mêmes, hein, quand il y a toujours trois sœurs, trois frères, etc. Ce sont des facettes de la même personne et qui est le plus grossière, eh bien, quand elles vont vouloir aller sur le rocher pour être prises par Eros, il va les laisser tomber, elles vont s'écraser, quoi. Parce qu'elles n'ont pas la légèreté de l'âme de Psyché. Donc, c'est un thème sur la beauté, mais la beauté qui va au-delà des apparences et qui touche vraiment le cœur plus que la forme. Et la volupté, c'est le mariage des deux, en fait. C'est fabuleux, hein. Bon, ça paraît évident, mais où cet éros et cette grandeur d'âme vont se réunir là-dedans. Et ça va vers la volonté, vers la volution, c'est-à-dire, ce n'est pas ce que je veux volontairement, c'est ce qui sous-tend. Et c'est pour ça que peut-être Psyché est toujours dans une position décrite un peu passive, puisque c'est cette énergie d'acceptation par rapport à l'énergie d'action qui vont créer la volution, la volupté, quoi. En gros, je ne sais pas si ça vous amène des remarques ou si vous avez des expériences qui peuvent affluer de ce sens. Je sais, en tout cas, moi, par rapport à ma vie, j'ai eu souvent des problèmes avec les belles-mères, faut dire, et ça m'a beaucoup éclairé de ce conte mythologique par rapport à mes racines méditerranéennes, hein, où j'ai relevé beaucoup de choses de cet aspect-là. Et ça m'a permis aussi de me dire, ben, je ne suis pas victime, c'est que j'ai beaucoup de choses à acquérir, d'initiation dans tout ça. Et par rapport à cette part magique et cette part du monde invisible qui, même quand plus rien ne va, c'est pareil pour la jeune fille aux mains coupées, hein, plus rien ne va, elle est abandonnée de tous, elle est seule, elle est dans la pire des situations, eh bien, la providence passe par le monde de la nature, par ces êtres invisibles pour l'aider. C'est pareil, Blanche-Neige, quand elle se retrouve dans la forêt en plein milieu de la nuit, avec le chasseur qui veut lui prendre son cœur, eh bien, elle va être aidée par les animaux, par ces êtres qui ne font pas partie de ce monde. Donc, ça donne une dimension pleine. Voilà. Merci. Il y a une question devant.
Hélène, il faut que tu fermes à la fois le désactiver le micro et fermer le son.
Baisse. Oui, je vois le son.
Voilà. Impeccable. Merci. Et Zora, si tu veux te retourner.
Pas trop.
Ah oui, non, oui. Non, mais ne te fais pas mal.
Non, mais ça va. Je vais vous parler.
Sinon, ouais, mais il faut épingler. Vas-y.
La volonté, pour moi, c'est une question. Je m'adresse.
Bah ouais, c'est pas évident. Adresse-toi, Hélène, et Hélène reprendra.
La volonté qui est vue par la nature, tout est perdu pour elle, et que sa volonté, enfin, l'aide, elle l'obtient par la nature. Je représenterai, pour moi, de façon spontanée, comme ça, la nature comme des événements inconscients, un petit peu. Ça arrive, elle ne se bat pas, mais il y a de l'aide extérieure qui arrive, ou des événements extérieurs qui arrivent, sans se battre. C'est quand même étonnant. Donc, elle a quand même une résistance. Et c'est quoi ces éléments de la nature? Les animaux, etc. Donc, c'est la personnalité, cet élan de vie, quand même, pour moi, hein, inconscient. Que j'ai envie de dire. N'importe pas de réponse, de
non.
Faire, sinon, on ne pose pas. On se laisse mourir, voilà, en gros. on se laisse vraiment mourir, elle fait des essais, mais en fait, il y a toujours ces pulsions de vie. Pulsions de vie, ça viendrait donc de cette nature. Voilà. Mal dit, mais.
Est-ce que je peux réagir justement à ça?
Pardon?
Je me demandais si je peux enchaîner justement à votre sens.
Oui, oui, vas-y.
Voilà, tout à l'heure, je disais que, de mon point de vue, c'est Eros qui agit dans l'ombre auprès des éléments et des psychiques. Et je me suis, je me suis appuyée sur l'idée que quand Psyché arrive dans ce palais merveilleux, tout est de l'ordre de l'invisible. Eros lui-même est invisible, elle ne le voit pas. Il y a une voix qui est là pour l'aider, il y a des serviteurs invisibles qui lui servent des plats, qui lui apportent de la musique, qui lui préparent des bains, des choses, etc. Donc, ce mari de l'ombre qui est Eros est tout le temps dans l'invisible jusqu'à la fin. Et donc, et je vous ai dit aussi que c'était un intermède, il fait partie de ce monde entre les dieux et les hommes. Donc toi, tu as parlé justement de la nature entre les dieux et les hommes. Pour moi, c'est la même chose, c'est Eros qui est là et qui, dans l'ombre, dans le monde invisible, vient apporter son aide à Psyché. Voilà, comme ça. C'est comme ça que je vois les choses.
Merci. Oui, alors attends, d'abord on ferme tout.
Donc, j'entends bien, je trouve que c'est un raisonnement qui est très juste au niveau analytique et tout. Mais quand je parle comme ça, c'est par rapport à une expérience que j'ai par rapport à la nature, où je suis extrêmement sensible, comme beaucoup hein, de personnes, aux éléments de la nature, et pas que dans mon monde imaginaire. Hein, j'ai des perceptions, des choses comme ça. Et dans ma propre vie, parce que je pars toujours sur mon expérience, sinon je me dis ça ne sert à rien pour moi d'envisager le monde si je ne pars pas de l'expérience qui m'a été donnée de vivre dans cette vie-là. Les éléments de la nature m'ont toujours beaucoup aidée dans des périodes où j'étais démunie et de façon très précise, où je voyais arriver un animal, je voyais arriver un aigle. J'avais une caresse d'une bise, j'avais etc. Alors on peut dire elle avait trop fumé la moquette, mais pas du tout. Ce sont des choses que je ressens très profondément et pour moi qui sont d'une autre nature. Ça n'a pas la même couleur que ces pulsions de vie, etc. Ce sont des formes très particulières et ce monde des fées. Bon, là, on est dans un univers de contes, donc on parle d'intime, mais moi, les faits, elles ne sont pas que dans les livres. Hein, j'ai des expériences. Donc, voilà, c'est pour appuyer ce raisonnement sur du vécu et des sensations très précises que je ne peux pas nier. Hein, si on a goûté une fraise, on sait quel goût ça a, on peut en parler, mais le goût de la fraise, on le connaît. Voilà. Et il y a une question. Alors, je referme tout.
Excusez-moi, une minute.
Voilà. Alors, deux questions. La première, c'est sur ce que vous venez de dire. Est-ce que ce ressenti d'une nature vivante autour de soi, c'est pas un prolongement de l'animisme archaïque qu'on retrouve dans les populations? Qui n'explique, qui n'arrivait pas à s'expliquer le monde autour de la première question. La deuxième, un des aspects intéressants que je trouve dans ce conte, c'est la maltraitance de la mère sur son enfant. Et ça amènerait à se demander qui est castrateur finalement. Est-ce que c'est le père, le castrateur du jeune enfant? Ou est-ce que c'est la mère? Est-ce que cette violence de la mère, femme, sur l'enfant n'explique pas ultérieurement une partie de l'agressivité des hommes envers les femmes? Voilà.
Ah, ça marche. Donc, ce que je disais, c'est que dans cette tribu Tamazight, c'est vraiment intéressant ce qui s'est passé. Moi, j'avais une idée idéale, que j'allais être dans une tribu où ils parlent que oralement. Ça me parlait énormément, puisque moi, je suis de tradition orale. J'avais quelqu'un qui allait traduire. Ça allait être le bonheur. En plus, notre société animiste, c'est vrai, vous avez raison. Il y a des aspects comme ça, mais l'expérience que j'en ai m'a amené le contraire. C'est que voilà, moi je ne suis pas tout à fait dans cette démarche-là, je la vis de l'intérieur. Donc je croyais être dans mon élément. Et la première chose que j'ai fait en arrivant là-bas, on est arrivé le soir, c'était 10h du soir, le papé tapait la mamée à grands coups de baston. Hein. Donc déjà le choc. Puis, dans la voiture, en venant, il y avait une émission à la radio d'une femme, c'était en français, donc j'ai tout bien compris, qui disait, bon, les hommes, quand ils frappent leurs femmes, mesdames, sachez que des fois, ils sont un peu énervés, ils ont eu une dure journée, et il va falloir vous montrer patiente. Le sens du sacrifice, vous savez, c'est important pour que la famille se porte bien, etc. Alors, déjà, ça dans la voiture, après le papé qui tape la mamée, ok, d'accord, donc je suis arrivée. Et ensuite, je me retrouve dans cette tribu. Et là, le lendemain matin, je vais manger petit-déj avec les femmes, parce que les hommes ne mangeaient pas avec nous, évidemment. Ils étaient dans une grande maison propre et nous, on vivait avec les poules dans un coin. Donc là, on y va. Et qu'est-ce que je vois ? Une mère qui prend son gamin, qui le prend comme ça pour le faire manger, qui commence à le... Et c'était tellement difficile pour moi que j'ai dit, je suis allergique au gluten, je ne peux pas déjeuner demain matin, je suis désolée, parce que ça me donne envie et que je ne peux pas. Enfin voilà, j'ai pris n'importe quel prétexte pour ne plus assister à ce genre de scène. Ça, c'est qu'une partie, parce qu'il y avait des gens adorables. Je ne veux pas décrire et trahir une culture qui a de très, très beaux aspects. Mais c'était une partie déviante de ce comportement qu'on peut retrouver partout en France, partout dans le monde. Hein. Je ne prenais pas mes propos pour des choses déplacées. Je ne fais que décrire des choses que j'ai vues. Et donc là, ça m'a vraiment interrogée. Je me suis dit, mais oui, moi, quand j'étais petite dans mes villages, ça arrivait, j'entendais des femmes crier, je voyais des gamins qui étaient maltraités. C'est partout, dans toutes les traditions, qu'on retrouve ça dans le bassin méditerranéen, et puis des hommes qui deviennent violents. Et après, c'est là où je me suis posé cette question que vous avez remontée, c'est... des hommes qui détestent les femmes parce qu'ils détestent leur mère. Et puis c'est tout un circuit, parce que le petit garçon en question qui se faisait frapper, il se trouve que la mère voulait envoyer son mari dans les écoles entre guillemets plus intégristes. Donc en fait, c'était elle qui était le moteur. Les hommes n'étaient pas victimes, ils étaient un peu comme Cupidon à pas pouvoir réagir. Dans ce cas précis, je ne généralise pas. Et en même temps, il y a d'autres familles où ça se passait bien, mais ça peut être la déviance. Je dis, c'est une des déviances qu'on retrouve partout dans le monde. Donc, ce que vous dites là, ça me paraît effectivement être une possibilité, en sachant très bien que ce n'est pas que ça, hein, mais ça peut amener ce genre de réaction, comme les femmes qui ont été violentées par le père, incestées, deviennent des femmes extrêmement guerrières et qui en ont vraiment... assez et qui agissent violemment. Donc, ça amène la violence. Forcément, un comportement abusif amène la violence. D'où qu'ils viennent. Je rééteins et cette fois-ci, je fais très attention.
Oui, mais non, juste avant, Hélène, est-ce que tu peux repréciser le lieu où tu as vécu l'expérience que tu nous as racontée ? C'est juste une demande du
bord. Alors, l'époque, c'était au temps du printemps arabe, juste avant. 2010-2011, et le lieu précis, je ne vais pas le dire par respect pour les gens chez qui j'ai été, je dis juste, c'est au-dessus du Rif.
Éteindre le micro et le son. Et Françoise, je vais t'écouter.
Voilà, je voulais juste te poser une question parce que je trouvais intéressant que tu démarres en racontant l'émasculation de Uranos qui faisait en sorte que les enfants ne naissent pas. Et d'un coup, après, tu nous reparles de Vénus qui elle-même est née de cette violence et de ce jet de sang et de sperme, en fait, oui, oui. Et qui, elle, à son tour, va... ne pas vouloir que son fils donne naissance, donne naissance, c'est intéressant ça, que en fait sa belle-fille donne naissance à un enfant, donc il veut empêcher ça. est-ce que cette violence de départ, il n'y a pas ce fameux cette fameuse inversion du mythe, enfin bon, où on passe de quelque chose de la naissance primitive dans l'extrême violence et la violence de Vénus ensuite. Je ne sais pas. Je te pose la question parce que je me demandais du coup, quand tu as parlé de ça, tu as parlé de Vénus, rapport entre la mort, l'amour, la vie, la violence, et si, voilà. C'est une question. Hein.
Ben merci beaucoup de ce rappel. Hein. Effectivement, Vénus, elle fait partie de notre monde que le monde des Titanides, etc. Et effectivement, elle naît de la violence, de la castration, en fait, hein, de son père. Hein. Donc déjà, ça part mal. Mais ça part mal pour... Et en même temps, c'est elle qui va être la plus séduisante de toutes les créatures sur cette Terre. Donc, comme s'il y avait une compensation qui va se mettre en place pour pouvoir être aimée, puisqu'elle est, elle est différente. Et c'est, merci beaucoup, vraiment, Françoise, de faire ce lien. Hein. Et sans doute que ça explique cela, puisqu'on dit, après, en psychologie, que les comportements de violence sont des, en fait, reviennent dans ceux qui sont les bourreaux ont été des victimes avant, etc., etc. Donc c'est tout à fait probable, hein. C'est quelque chose qui est dramatique, ça fait partie de l'être humain, et malheureusement dans cette mythologie c'est comme si on nous donnait tous les tableaux de ce qu'on peut vivre et les raisons de pourquoi, du comment de la chose, hein. Et c'est vrai que Eros, je vais dire à l'origine plutôt Agapé, c'est celui qui est dans l'amour absolu. Lui, il n'est pas du tout dans l'éros, il n'est pas du tout dans la séduction. Donc, il y a quand même, derrière toute cette violence, il y a ce fond d'écran qui est éros, qui est au-delà de tout ça, heureusement. Et c'est peut-être cet éros-là qui va permettre à Psyché de devenir qui elle est, quoi, dans cette innocence et tout ça. Alors, il n'en devient pas violent pour autant, certes, mais il met quand même... j'ai fait une bêtise. Il met quand même beaucoup de personnes en péril avec ses flèches. Hein, il s'amuse un peu trop. Il est d'une légèreté absolument éhontée et il amène la souffrance. Ce n'est pas de la violence qui va amener Eros, c'est de la souffrance. Parce que souffrir d'aimer, le nombre de fabulistes, dont Florian qui habitait à Sauve, hein, plaisir d'amour ne dure qu'un instant... chagrin d'amour dure toute une vie. Alors on va dire oui, mais c'est déjà négatif, etc. Mais n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de notre humanité et tout ce que l'on voit dans les romans, les séries, nous parle de cette souffrance d'aimer et la peur d'aimer, et etc. Que c'est trop de... Voilà. Donc on est dans quelque chose qui est dit dans la mythologie. Hein. C'est ça. Donc ce n'est pas la même violence, c'est une violence plus sournoise. Puisque c'est avec ses flèches d'amour qu'il va rendre les gens en souffrance. Donc lui, il ne va pas donner un coup sur la tête, ni trancher, mais voilà. Il y a des questions derrière, là, que je vois des mains qui se lèvent. Je vais éteindre.
Un petit moment et une dernière, il y aura de Yacine. Attends, comme ça, attends. C'est pour que le public puisse te voir.
Je voudrais juste essayer pour clarifier les choses par rapport à la notion d'amour. Parce que souvenons-nous qu'en grec, il y a, je crois, à peu près 9 termes pour parler de l'amour. Et Eros est l'un de ces termes, Agapé un deuxième. Mais Eros et Agapé, ça n'a rien à voir. Agapé, ça correspond à l'amour inconditionnel, à l'amour charitable. Et Eros, lui, c'est l'amour charnel, le désir. Et dans l'histoire, par rapport à l'histoire toujours, dans l'histoire, c'est la rencontre de ce désir charnel et de cette âme qui fait que ça aboutit à la volupté, au plaisir suprême.
Et il me semble que Eros, il n'est pas du tout désincarné. Au contraire, c'est le corps, quoi. C'est cette rencontre entre ces deux principes qui fait que ça aboutit à quelque chose de suprême ensuite. Je ne crois pas du tout que Agapé et Eros soient la même chose. C'est ce que tu as dit.
Non, j'ai dit qu'au départ.
Je te remercie de faire cette précision, hein, parce que moi, ça m'a mis à la confusion. Donc, je suis allée vérifier. Et en fait, c'est au départ, ils l'ont quand même appelé Eros dans certaines versions, l'agapé du départ. Je dis agapé pour donner la couleur. C'est-à-dire qu'il était avant Ouranos et avant Gaïa. Et ce n'est pas du tout le même que Cupidon, tout à fait. Merci de le souligner. Hein. Mais comme on dit Eros et Cupidon, des fois, on les mélange. Ça fait écho à cette première apparition de l'amour qui, des fois, s'appelle Eros aussi. Donc, il y a des confusions qui vont se jouer. C'est pour ça que j'ai mis la distinction. Et en intervenant, tu la ressoulignes. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs. Il y en a 9. Il y a Philia, la famille, etc. etc. Hein. Mais voilà, donc ça demande à vérifier parce que souvent, ils s'appellent Eros, mais ce ne sont pas du tout les mêmes. Donc, Cupidon, c'est une chose. Et cet Eros des origines n'est pas du tout le même que Cupidon. Et c'est bien de le souligner. Merci. Après, il y a une autre question.
Alors là, je réactive. En fait, des personnes en visio se posent la question parce qu'Hélène, tu as pu dire que il me semble, toi, que Eros s'est piqué volontairement avec la flèche au départ, alors que c'est accident. D'accord.
Il n'a pas fait plus tard, non, c'est un accident. Attention, tu as plus le son là. Ah oh, oui, mais je le remets.
Oui, c'est bien.
Alors,
on remet. Excusez-moi. Donc, je me suis mal. Peut-être que je me suis mal exprimée, mais c'est involontairement, il va pour tirer sur cet être ignoble que sa mère veut qu'il épouse. Et il se blesse malencontreusement. Du coup, il devient un fou amoureux de Psyché. Mais il ne le fait pas volontairement. Ce que j'ai peut-être dit, c'est que c'était une intention cachée qu'il avait, entre guillemets, comme on dirait, un acte manqué. Voilà. Mais volontairement, non.
Ah, non, c'est Marc qui parle de volontairement. Non, c'est ce que certains ont entendu, que Eros se figurait avec la flèche volontairement.
Pas dans cette version,
d'accord, je vais le répondre. Et que les liens aussi, maintenant, d'accord, non.
Donc, comme quoi, c'est important de clarifier parce que c'est vrai que c'est déjà complexe. Donc, voilà, merci hein, de toutes ces précisions. Il y avait encore une question ? Il faut que j'éteigne mon micro.
Oh, oui, et ce sera la dernière. Remarque.
Une remarque pas forcément directement liée au fond, mais par rapport à ce qu'il y avait comme discussion sur la violence qui était subie par Cupidon ou par la mère en général. Il y a aussi savoir si c'est cette violence-là qui conduit à une violence des hommes sur les femmes. Je pense qu'il y a au moins deux violences qu'il ne faut pas oublier. C'est la violence à laquelle assiste l'enfant quand la mère est battue par le père. Ça, c'est aussi quelque chose qui à mon avis, peut être source de cette reproduction. Et aussi, pas oublier aussi que bah, la violence du père contre l'enfant qui bien souvent est beaucoup plus violente en termes physiques, parce que à partir d'un certain âge, en tout cas, très souvent, puisque c'est le rôle un petit peu. Dans certaines traditions du père de corriger physiquement. Donc c'est vrai que moi il me semble hein, en fait c'est peut-être que la violence qui apparaît de la mère sur l'enfant, elle existe, elle peut paraître très importante, Moi, pour avoir vécu en Algérie, je sais que quand on sortait de l'école, les enfants, ils avaient peur des coups de leur père. C'était vraiment, la violence, elle était là. Les coups de leur mère, c'était presque, je ne vais pas dire affectueux, mais c'est pas grave, quoi. C'est à partir d'un certain âge, parce qu'effectivement, il y a aussi cette éducation où le père s'occupe. Encore une fois, hein, je généralise pas. Par contre, voilà, la question de savoir si c'est la violence de la mère sur l'enfant qui va provoquer la violence des hommes sur les femmes, j'ai l'impression que c'est dans le sens contraire. C'est en fait la violence que les hommes vont produire sur les femmes devant les enfants et que les femmes vont accumuler en termes de violence, qui va peut-être rejaillir sur les enfants. Voilà, en tout cas, sinon il y a quelque chose d'un peu étrange, c'est qu'on pourrait dire, finalement, la violence des femmes, c'est elle qui est à l'origine de leur propre de la violence des hommes sur eux. Je trouve qu'il y a... Oui, je sais, mais il y a cette idée-là...
Alors, ce sera vraiment la dernière excuse. Ah oui, il faut...
J'aimerais bien répondre. Ça
a tout, mais... Donnez ma... par rapport à ça, j'entends bien, hein, mais là, je revenais à ce conte mythologique. Et ce n'est pas une violence, comme je disais, par rapport aux dieux de la mythologie qui sont très violents, qui correspondent à la violence du père dans certains cas. Là, c'est plutôt une violence psychologique, la violence de la mère, qui attaque de l'intérieur. Donc, ce n'est pas du tout comparable. Hein. Donc, et puis, là, c'est par rapport à ce mythe. Donc, ce n'est pas une généralité sur tout ce qui va se faire. Donc, j'entends bien ce qui est dit. Mais voilà, c'est pas si simple que ça, évidemment. Hein. C'est beaucoup plus complexe. Hein. Voilà, ça, c'est clair. C'était juste une vision sur cet angle-là, de cette histoire-là, pour explication de certains cas, etc. Alors, je re-éteins. Une remarque
rapide pour ce
C'était simplement pour dire que la violence...
Merci Hélène.
Simplement pour dire que la violence des hommes sur les enfants, effectivement, ça a des effets, c'est obligatoire, puisqu'ils intègrent cette violence, il y a une sorte de modèle du père, le père qui fait peur en même temps, mais en même temps, la mère qui a vécu son propre père, etc., qui a vécu cette violence, donc ça, il y a une sorte de transmission, parce que je suis algérienne d'origine, hein, vous voyez physiquement. Donc, mais la violence, elle, après, elle est perpétuée par les femmes elles-mêmes, puisqu'elles sont, c'est inséré dans leur propre intérieur, comme tu disais, leur monde intérieur, et que cette, très souvent, dans les anciennes générations, comme ma génération à moi, nos mères ont quand même perpétué un système de violence sans les hommes, puisqu'elles-mêmes étaient porteuses de cette violence qu'elles ont subie elles-mêmes. En fait, c'est très compliqué, c'est très ambivalent. Et alors qu'elles aiment leurs enfants, elles les aiment très profondément. Et cet amour, moi, maintenant que j'ai plus ma mère, je peux en parler très facilement. Elles adorent leur maman, leur enfant, pardon. J'adorais ma mère. Mais il y a eu de la violence quand même. Et cette violence, après, c'est comment nous, qu'est-ce qu'on peut en faire, effectivement. La question de la création, la sublimation, etc., pour nous aider à avancer. Mais il y a des choses sur lesquelles c'est tellement profond, tu as même honte d'en parler, parce que ce n'est pas possible. Maintenant, aujourd'hui, je suis à un certain âge, je n'en ai rien à faire maintenant. Avant, c'était impossible pour moi d'en parler. C'était cette violence profonde, et même dans la fratrie, les grandes sœurs qui vont s'en prendre aux petites sœurs, ou le petit frère qui veut faire le mac, etc. Tout ça, c'est de la violence par rapport à cette culture. Mais ça, à une époque, je n'aurais jamais pu en parler. Maintenant, je suis passée au-dessus. Mais c'est une grande souffrance pour tous les enfants. Et pour s'en sortir, même dans les écoles, etc., comment en parler à ses copines et ses copains, c'est impossible. Donc, on est dans le silence en même temps. C'est une violence aussi. Je suis maghrébine, quoi, d'origine. Donc, j'ai eu tout ça. Témoignage réel. Et cette violence, ça continuera jusqu'à la fin de mes jours. Plus de quoi. Il y a une dame qui veut parler.
Merci.
Juste pour rappeler qu'on est tous d'accord, je crois, pour ne pas essentialiser. Cette violence est le lot de l'humanité et pas seulement de la Méditerranée.
C'est vrai.
Oui, merci pour cette dernière remarque.
Et puis, il y a la violence psychique, évidemment, dans beaucoup de familles.
Ah oui. Je vous propose une pause pour le repas. On se retrouve à 14h30. Je le dis également en ligne. Merci Hélène, en tout cas.
Merci. Merci.